Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Esprit Occitanie. Bienvenue dans Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs et auditrices Vers de Rage, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique, Environnementale et Pratique Sociale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yvan, Mallory et Hugo, sociologues de l'environnement, pour débattre des politiques, des petits gestes écologiques. Avant de débuter, je laisse la parole à Shan, notre chroniqueur, qui a écouté les interviews d'Emmanuel Macron à propos d'écologie depuis 2017, pour préparer sa chronique d'aujourd'hui.
On est tous un peu co-responsables de ça. Dans les achats qu'on fait de vêtements, dans les achats qu'on fait de nourriture, dans nos comportements chaque jour de tri. Et donc le G7, c'est une chose, mais notre vie de tous les jours, c'en est aussi une autre, elle est aussi importante.
Ce discours que j'ai écouté sur Combini a été une sorte de révélation pour moi. J'ai décidé de prendre ma responsabilité de consommateur et d'aider à mettre fin au réchauffement climatique.
Mais alors, qu'est-ce que c'est un consommateur, Sean ?
Eh bien, depuis une semaine, c'est moi. J'ai décidé d'aller faire mes courses au rayon bio de mon Carrefour Market. J'ai remplacé mes steaks par des galettes de soja brésilien. Je fais baisser ma consommation d'eau en ne prenant plus qu'un bain par semaine. J'ai même troqué mon vélo contre une trottinette électrique. Il paraît que c'est écolo. Bon, du coup, je vais vous parler un peu de ce qui m'a amené à changer de manière aussi radicale mon petit train de vie. J'ai compris qu'on était tous co-responsables de la situation actuelle et que c'est en changeant nos actes qu'on pourra sauver le monde. Et du coup, depuis, je ne sais pas pour la planète, mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Non, vous y avez cru ? Sérieusement ? Non mais trêve de plaisanterie, j'ai bien écouté tous les discours de notre président de la République. Et je peux vous dire que ça, bah, c'est un peu ce qu'il veut qu'on fasse. Je vous résume ses propos. Emmanuel Macron justifie la frilosité de sa politique environnementale actuelle par une inertie générale des gouvernements européens qui ne permet pas d'acter de mesures significatives rapidement. Pour ce qui est des politiques nationales, le président renvoie la balle au gouvernement précédent en disant qu'il hérite de leur politique. En gros, c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne. Et finalement, pour conclure son propos, il s'adresse à nous, les consommateurs citoyens. Pour résumer, l'aviation, ce n'est pas si grave par rapport à notre consommation de textiles. Il n'y a pas que lui. Le consommateur aussi est responsable. On en vient donc ici à l'essence même du libéralisme, qui a pour principe que le bien-être collectif peut venir des actions individuelles. Dans un contexte de crise écologique, c'est donc naturellement la responsabilité des consommateurs de muter en consomme-acteurs, responsables et citoyens, et de se mettre en marche pour réguler l'offre. S'il est vrai que les petits gestes amènent à un apaisement de conscience, il est nécessaire de prendre en compte le fait que seul ce mode d'action ne pourra pas être suffisant dans la lutte contre le dérèglement climatique. L'injonction à ce que chacun et chacune fasse sa part est faite pour ne pas remettre en cause une problématique qui est plus systémique qu'individuelle. Alors certes, les petits gestes sont importants, et il est nullement question ici de nier leur utilité, ainsi que la bonne foi de ceux qui en font leur quotidien. Mais il s'agit plutôt de s'interroger sur cette idée de responsabilisation de l'individu par un système politique et économique, et de comprendre ce que les politiques des petits gestes impliquent pour les différentes franges de la population.
Merci, Shan. Et maintenant, pour nous parler des actions de la sphère politique face à l'urgence environnementale, Mallory, dites-nous qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement ?
Alors, face à la crise environnementale, on peut dire qu'il y a eu des politiques publiques mises en place au sein des États pour pallier, ou du moins réduire, les effets du dérèglement climatique.
Et comment ça s'est passé ? On dirait que le sujet est arrivé de nulle part, et depuis quelques années, on en parle sans arrêt.
Eh bien, c'est parce que dans les années 70, les scientifiques du monde entier ont tiré une sonnette d'alarme lors du sommet de la Terre à cause d'un changement climatique anormal. Il est aujourd'hui confirmé que c'est à cause des activités humaines. Donc, ils font prendre conscience des effets de nos actions.
Les années 70, donc ça fait 50 ans qu'on est au courant.
Et regardez où on en est. Des experts comme Frédéric Durand expliquent que les émissions de CO2 en France en 2017 s'élevaient à 11,2 tonnes par personne et par an, dont 4,5 tonnes issues des produits fabriqués ailleurs et consommés par les Français et les Françaises. Notre empreinte carbone a augmenté de 7% entre 2017 et 2019.
Ah oui, ça sent pas bon tout ça.
Pas vraiment, non. Donc l'État français vise la neutralité carbone d'ici à 2050, c'est-à-dire de baisser notre empreinte carbone à zéro.
Et c'est possible de faire ça ?
Si on part du principe qu'une empreinte dite soutenable est de 2 tonnes par personne, on devrait réduire nos émissions d'au moins 5 fois, Je vous laisse imaginer ce qu'il faudrait faire pour atteindre la neutralité carbone.
Ah oui, quand même. Et si on n'y arrive pas ?
Je ne veux pas avoir l'air dramatique, mais à la fin du XXIe siècle, la température sera de 1,5 à 6 degrés plus élevée. Le niveau des mers augmentera de 31 cm à 1 mètre. Le cycle des précipitations va s'accélérer. Les écosystèmes côtiers et montagneux seront fragilisés. Il y aura des vagues de chaleur, l'érosion des sols sera renforcée, les maladies infectieuses se répandront, les rendements agricoles diminueront.
Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je ne veux pas vivre tout ça.
Eh bien, on en revient aux petits gestes.
Les fameux petits gestes, vous voulez dire le compost ou prendre le vélo plutôt que la voiture ?
Oui, et pour le coup, nous sommes tous les deux venus à vélo jusqu'ici.
Et oui, faut bien penser à la planète.
Oui, c'est certain. D'ailleurs, l'augmentation des températures pouvant aller jusqu'à 6 degrés, je vous avoue que moi, ça me met hors de moi. J'ai du mal à regarder mes enfants dans les yeux quand j'imagine le monde de demain.
Oui, je comprends bien. C'est un sentiment que nous partageons aussi. À ce sujet, je voulais évoquer Hans Jonas, un philosophe du XXe siècle qui va explorer cette question. Quelle responsabilité avons-nous face à la crise environnementale ?
Comme vous, il pensait avant tout aux futures générations. Selon lui, l'humain a comme finalité sa survie, mais à l'échelle de l'espèce.
Donc nous serions tous responsables du bien-vivre des générations futures ?
Exactement.
Mais ça paraît si simple quand on le dit comme ça, pourquoi c'est si difficile à faire ?
Grande question. Déjà, il faut commencer par distinguer à la fois être responsable et se sentir responsable. La responsabilité est, selon Jonas, un pouvoir causal. Par exemple, si je fais tomber un verre d'eau, j'en suis responsable.
Ça paraît logique.
Oui, mais être responsable ne veut pas dire qu'on se sent responsable. Si une entreprise pollue une rivière avec une usine, elle peut être reconnue responsable, mais n'en avoir rien à faire.
Et dire que moi, je culpabilise d'acheter mon riz dans des sachets en plastique.
Parce que vous, contrairement à cette entreprise, vous vous sentez responsable.
C'est comme quand on a froid chez nous. Moi, je me demande toujours si ça vaut la peine d'allumer le chauffage.
Bah oui, si j'ai froid, j'ai froid.
Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?
Oui, je vois. Pour moi, ça en vaut la peine, mais si je pense à la planète, un peu moins.
C'est ça. Rationnellement, on se dit, j'ai froid, donc j'allume le chauffage. Mais le sentiment de responsabilité touche notre affect, alors que la responsabilité en soi, c'est rationnel et souvent normatif. C'est par exemple le sentiment d'injustice qui me pousse à manifester. Nos actions sont nourries par l'affect, même si elles sont dirigées par un côté plus rationnel.
Bah, c'est vrai que si j'achète un portable d'occasion, c'est parce que je me sens responsable des conséquences de ma consommation.
Et vous faites bien en soi, mais la responsabilité individuelle a ses points faibles.
Mais je me demande, pourquoi rendre les citoyens responsables quand en réalité, les plus grands pollueurs ne sont ni vous, ni moi, ni même le conducteur de SUV ? L'État est aux commandes, non ?
Oui, mais il faut nuancer quand même. Tout comme Jonas, le sociologue Denis Salle a travaillé sur cette question de responsabilité et nous explique que l'État est certes aux commandes, mais il délègue le pouvoir d'agir. Surtout sur ces questions environnementales qui se gèrent au niveau local. Il se déresponsabilise de la question en déléguant aux institutions sur place.
Ok, mais du coup ça reste quand même au niveau des institutions. Comment ça se fait qu'on se sente alors responsable, nous, simples citoyens ?
En fait, le fait de diviser les pouvoirs engendre de la co-responsabilité.
On est à la fois sensibilisé via plein de campagnes de sensibilisation et de discours politiques, et en même temps, on nous offre la possibilité de participer au débat public. En nous impliquant dans l'action environnementale, on nous rend responsables.
D'accord, je vois. Mais vous pensez que ces petits gestes sont efficaces, finalement ?
Dans la thèse de Denis Salle, ces petits gestes sont une prise en main par l'individu de la question environnementale, après les échecs de l'État.
Non mais avec plus de 7 milliards d'individus sur cette planète, il y a quand même moyen, si on se mobilise tous, de sauver notre monde de l'effondrement, non ?
Pas à échelle individuelle. Disons que c'est dans l'intérêt du gouvernement de nous faire croire que tous ensemble, on peut y arriver, qu'il suffit juste de s'y mettre.
D'accord. Est-ce que vous pouvez développer cette idée ?
Si je peux me permettre, je peux répondre à cette question.
Avec plaisir, allez-y Hugo.
En fait, la responsabilité individuelle qui est demandée en matière écologique à travers les petits gestes, c'est un type de réponse qui est bien précis aux problèmes d'environnement. Faire appel à cette responsabilité des individus, ça correspond à une école de pensée politique qui est le néolibéralisme.
Le néolibéralisme ?
Oui, je vous explique. En fait, pour Michel Foucault, qui est un philosophe et historien incontournable du XXe siècle, le néolibéralisme est une modernisation du libéralisme qui a été pensé dans les années 30.
C'est une école de pensée, donc ?
Oui, issue du libéralisme moderne, mais en plus radical. On peut en effet plus dire que le libéralisme de notre président soit une copie conforme de celui d'Adam Smith ou de David Ricardo, les pères fondateurs du libéralisme.
Mais alors, quelle différence avec le simple libéralisme, alors ?
Ben, là où le libéralisme économique classique prône une non-intervention de l'État, de laisser faire le marché, Le néolibéralisme, lui, effectue pour sa part un interventionnisme actif sur la société.
Un interventionnisme ?
Oui, en fait, il a pour but de transformer chaque secteur de notre vie, éducation, santé, environnement, pour leur faire intégrer des logiques de marché. Il faut gouverner pour le marché plutôt qu'à cause du marché.
Du coup, le néolibéralisme serait une manière de gouverner ?
Tout à fait. Le néolibéralisme cherche à gouverner les individus à distance, sans passer par une gouvernance politique ou judiciaire, mais par une gouvernance morale. C'est ce que Foucault appelle la pastorale néolibérale.
Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien le rapport entre votre définition du néolibéralisme et notre sujet, les petits gestes.
Oui, pardon, c'est pas évident. En fait, les néolibéraux cherchent à autonomiser les individus et à leur transférer la responsabilité de l'État. Promouvoir des politiques des petits gestes écologiques correspond à la logique néolibérale selon laquelle notre société n'est que l'agrégat de décisions et actions individuelles.
Nous serions seuls responsables de la situation actuelle, ou du moins les principaux responsables. Ce sera à travers nos actions que l'on pourrait résoudre la crise climatique.
Pour moi, cette manière de voir empêche toute critique systémique de notre société. En fait, si notre société n'est que la somme des actions individuelles, alors nul besoin de la changer. Moi, je pense pour ma part que notre système productiviste et consumériste doit être changé pour parvenir à sauver notre planète.
Il n'y a pas que Foucault qui parle de néolibéralisme. Tu ne voulais pas venir aussi parler de Barbara Stiegler ?
Merci de me rappeler à l'ordre, Mallory, parce que moi, quand je parle de Foucault, je m'arrête plus. Stiegler est une philosophe qui s'intéresse à la formation du néolibéralisme, notamment aux auteurs fondateurs de cette école tels que Walter Lippmann. Elle parle de responsabilité individuelle.
Elle aussi ?
Oui, en fait, elle montre d'abord que les néolibéraux ont emprunté l'évolutionnisme de Darwin et l'ont appliqué au champ de l'économie, du politique et du social. Comme dans la théorie de l'évolution, l'humain devrait s'adapter. On retrouve cette idée dans une métaphore de code de la route pour décrire le rôle idéal d'un État néolibéral.
Non, mais je ne comprends pas très bien, vous parlez de quelle métaphore ?
Cet État ne doit pas laisser circuler les voitures dans tous les sens, suivant leur bon plaisir, d'où résulteraient des encombrements et des accidents incessants. Et cet État ne doit pas non plus fixer à chaque voiture son heure de sortie et son itinéraire. Du coup, pour ces néolibéraux, il faudrait imposer au contraire un code de la route.
Du coup, l'État néolibéral intervient, il ne laisse pas faire.
En quelque sorte, mais c'est bien aux membres de la société de s'adapter, d'adapter leur propre conduite, suivant les codes imposés par la puissance publique. Pour Lippmann, il s'agit d'une, je cite, « formidable réadaptation de l'espèce humaine en un ensemble d'individus flexibles et de plus en plus adaptables à l'accélération des changements ».
Pour les néolibéraux, c'est donc à l'individu de changer de comportement pour l'environnement.
En effet, pour les problèmes environnementaux, il s'agit dans le néolibéralisme d'adapter l'individu, de le responsabiliser avec ce qui s'apparente à un code de la route.
Oui, ce fameux code de la route.
Les encouragements politiques à effectuer des gestes individuels en faveur de l'environnement relèvent d'un ensemble de dispositions à effectuer. Selon la doctrine néolibérale, chacun devrait se réadapter au programme disciplinaire défini d'en haut, soit faire preuve d'autocontrôle. Mais notre société n'est pas égalitaire, donc nous ne sommes pas non plus égaux face à la responsabilité individuelle des petits gestes.
Merci Hugo pour votre analyse. En effet, nous allons voir après la pause musicale quels sont les liens entre les inégalités et les petits gestes. Mais pour le moment, écoutons l'effet papillon de Benabar.
Si le battement d'ailes d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immense. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons.
À
un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Pourtant joli comme expression, petite chose dégâts immense. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de retour dans l'émission Vers de terre en compagnie de nos trois invités, trois sociologues de l'environnement venus nous parler de ces petits gestes écologiques que l'on essaie d'appliquer. Pour reprendre notre émission, Yvan, pourriez-vous nous définir pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est une classe sociale d'un point de vue sociologique et nous expliquer son lien avec la politique des petits gestes écolos ?
Oui, bien sûr. On peut citer deux sociologues. Tout d'abord, pour Karl Marx, les classes sociales sont des divisions hiérarchisées des individus d'une même société selon leur place dans le système de production. La classe dominante dispose des moyens de production et la classe des plus pauvres, les prolétaires, eux, n'ont que leur force de travail. Au sens de Pierre Bourdieu, les classes sociales se déterminent par le niveau de capital que chacun détient et ce capital peut revêtir diverses formes, économiques, sociales, culturelles ou symboliques.
D'accord. Et alors, pourquoi est-ce qu'on évoque ce sujet quand on parle des petits gestes ?
Parce que ces politiques des petits gestes et le contexte des classes sociales conduisent à une hiérarchisation des individus en fonction de leur pouvoir et possibilité face aux pratiques de ces gestes.
Donc tout le monde ne participe pas aux petits gestes de la même manière ?
On va souvent dire que les individus issus des classes populaires n'ont pas les moyens économiques de souscrire aux petits gestes. Leur consommation est moins malléable, il leur est plus difficile d'opter pour des produits bio ou locaux, parce que l'on sait que c'est plus cher.
Si ce sont plutôt les riches qui font les petits gestes, alors ce sont eux qui polluent le moins ?
Ce n'est pas aussi simple. Les individus des classes moyennes ou aisées auront tendance, selon leur mode de vie et leur production, à davantage polluer. On peut parler d'avoir un SUV, de voyager loin, même s'ils vont consommer à côté de cela des produits dits plus responsables. Selon un rapport de l'Oxfam, depuis les années 90 dans les pays de l'UE, les émissions de CO2 des classes populaires ont tendance à baisser, alors que les émissions des classes moyennes ou aisées augmentent environ 10%.
D'accord, donc finalement, en plus d'être accusé de polluer, on peut deviner que ce sont aussi les plus pauvres qui subissent les pollutions, non ?
Essentiellement, oui. Anne Lestrat, dans « L'écologie peut-elle être populaire ?», s'interroge sur les populations vivant en périphérie de Paris, dans un logement dégradé ou pollué. Ceux-ci ne peuvent s'offrir des produits biologiques ou aller s'aérer à la campagne le week-end, et ils sont à la fois les plus contraints par les politiques de transport.
Ce qui paraît paradoxal, c'est qu'il semble que les riches sont ceux qu'on retrouve le plus aux manifestations ou dans les débats du monde.
C'est plus complexe que cela. Jean-Baptiste Combi s'intéresse à ces critères économiques. La participation aux petits gestes échapperait aux personnes qui doivent s'inquiéter de leurs besoins dits primaires, la nourriture, le logement ou les habits.
Donc il faut être riche pour être sensible à l'environnement ?
Si on caricature, oui. Mathieu Grosstedt construit par exemple le militant écolo comme ayant un fort capital culturel mais sans capital économique. Les premières victimes des pollutions sont généralement les populations les plus défavorisées et issues de minorités ethno-raciales qu'on retrouve dans les grands ensembles bétonnés. Il est donc faux de croire que ces minorités ne se sentent pas concernées par les impératifs environnementaux.
Donc les politiques des petits gestes s'adressent aussi à ces populations?
Oui, personne n'échappe réellement à cette injonction. Ce qu'il faut en retenir, c'est l'invisibilisation du collectif. Le débat ne peut se résumer à l'action individuelle de chacun. Il faut créer du commun, car actuellement, ces minorités peuvent se sentir exclues vis-à-vis de la question environnementale.
Mais comment pourrait-on espérer un changement si ces petits gestes engendrent de surcroît des inégalités de classe au sein des débats écologiques?
Il me paraît évident que cette injonction néolibérale des petits gestes se heurte à l'impératif écologique et laisse de nombreux individus de côté. Pour paraphraser Pierre Joliot-Curie, je dirais qu'une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la dégradation de notre environnement.
Merci Yvan pour votre intervention. Pour vous, Mallory, ces politiques des petits gestes sont créatrices d'inégalités de genre. Qu'entendez-vous par là?
Alors, pour répondre à votre question, il me paraît important de faire le lien entre ce qu'on entend par petits gestes et les personnes qui les réalisent. Ces petits gestes sont très souvent liés à des actes de consommation.
Ah oui, c'est ce que nous disait Yvan il y a quelques minutes.
Exactement. Mais ils sont aussi liés à la sphère domestique, le ménage, l'alimentation, la gestion des déchets, etc. Seulement qui, dans la grande majorité des foyers, gère ces aspects du quotidien?
La maman?
Exactement. C'est la mère ou la femme dans un couple hétérosexuel. Marie Donzel, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes, parle d'une nouvelle charge sur les femmes. La charge environnementale. En plus de la charge mentale déjà existante, qui est la gestion du foyer, s'ajoute la responsabilité écologique. On retrouve aussi une majorité de femmes dans les ateliers de création Do It Yourself, où les participantes apprennent à faire leurs propres produits éco-responsables, comme les produits ménagers par exemple. On peut évoquer l'association Zero Waste Toulouse, qui propose ce type d'atelier et fait du plaidoyer pour faire évoluer les politiques environnementales. Elle confirme cette tendance, même si elle travaille à diversifier le profil de ses bénévoles et des publics qu'elle sensibilise.
Donc si je comprends bien, pour vous, ces politiques des petits gestes sont une charge et une responsabilité supplémentaire pour les femmes. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte ça?
C'est une vaste question. Mais on peut déjà parler de l'éducation des enfants. Les petites filles sont éduquées à prendre soin des autres, tandis que les garçons sont encouragés à développer un caractère centré sur l'individu. C'est ce qu'on appelle la socialisation et elle est souvent genrée. Magali Treloane, spécialiste des questions de genre et de comportements pro-environnementaux, en parle dans divers articles.
Donc c'est à cause de ça, de cette éducation, que mon partenaire ne veut pas venir faire un atelier DIY avec moi.
Ça peut être une des raisons, oui. Par exemple, une étude américaine de 2016 a analysé les liens entre les codes de virilité et les comportements éco-responsables. Elle montrait qu'une personne utilisant un sac réutilisable, comme un sac en toile par exemple, était perçue comme plus féminine qu'une autre utilisant un sac en plastique. Donc pour résumer, les femmes ont des comportements pro-environnementaux qui seraient liés à des attentes sociales très ancrées et intériorisées, notamment via l'éducation. Elles sont encouragées à prendre soin des autres, mais aussi des générations futures et de l'environnement.
Vu les liens que vous faites entre les inégalités de genre déjà existantes et les politiques des petits gestes, est-ce que finalement cette écologie serait anti-féministe?
C'est une question qu'on peut se poser en effet. Mais comme l'explique la professeure Florence Page-Guignard, qui a notamment travaillé sur les intersections entre écologie et féminisme, les femmes qui se lancent dans ce type de démarche le font par conviction éthique ou volonté d'améliorer leurs conditions de vie. Cependant, cela prend la forme d'actions très genrées, notamment dans les petits gestes. Mais cette intention peut être le premier pas vers le militantisme et d'autres formes d'écologie. De plus, quand on évoque les liens entre écologie et féminisme, on pense évidemment à l'écoféminisme.
Ouais, l'écoféminisme, sujet passionnant mais controversé. Nous n'aurons malheureusement pas le temps d'en parler en détail aujourd'hui, mais pourriez-vous le décrire en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs?
Alors, on peut dire que l'écoféminisme met en lumière les parallèles perçus entre la domination de la nature et des femmes par le système patriarcal capitaliste. Pour l'économie capitaliste, la nature est considérée comme un objet d'exploitation, une ressource gratuite, et les femmes ont la même place dans la sphère domestique maintenue par le système patriarcal.
Aïe.
Si le sujet intéresse des auditrices et auditeurs, on peut citer Vandana Shiva comme figure du mouvement. J'aimerais finir en citant une autre écoféministe, Nina Gouze, pour qui le basculement en écologie ne peut se faire que si l'on remet en question le cloisonnement des genres.
Merci Mallory pour votre intervention. Alors Hugo, vous souhaitez nous parler d'un autre type d'inégalité qui est révélé par les politiques des petits gestes, les inégalités territoriales.
Alors oui, en effet, vous l'avez vu avec mes collègues, la politique des petits gestes révèle des inégalités de classe, mais elle souligne aussi des inégalités qui sont ancrées dans l'espace.
Alors, on vous écoute, en quoi ces politiques des petits gestes provoquent des inégalités territoriales ?
Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder les choses d'un point de vue urbain-rural, et notamment l'exemple des mobilités, puisque c'est quelque chose qui parle à tout le monde.
Alors, quand vous dites mobilité, vous parlez des transports ?
Tout à fait. Ces mobilités sont responsables d'une importante partie des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est un point charnière de la lutte climatique. Du coup, pour cette raison-là, en fait, les ruraux sont souvent pointés du doigt à cause de leur utilisation plus importante de la voiture par rapport aux urbains. Mais cette utilisation importante, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de la fracture spatiale entre urbain et rural, et elle révèle un potentiel d'action par les petits gestes qui est différent à la ville et à la campagne.
Moi, j'ai toujours entendu dire que c'est la production d'énergie qui est la plus grosse source d'émissions de CO2 et que le transport ne viendrait qu'après.
Alors, absolument, hein. Mais le transport reste tout de même très, très polluant. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer. En France, les transports représentent les 2/3 du pétrole utilisé et 1/3 des émissions de gaz à effet de serre du pays.
Ah ouais, quand même.
Oui. Et il faut savoir aussi qu'une grande partie des transports en France sont des mobilités qui sont locales et quotidiennes. Elles représentent 60% des distances parcourues et 70% des émissions de CO2 du transport. On peut dire en fait qu'une grande partie des émissions de CO2 par le transport en France vient de nos allers-retours quotidiens au travail.
C'est sûrement pour ça qu'on nous tanne autant pour arrêter de prendre la voiture.
C'est ça. En fait, la responsabilité retombe sur les citoyens. Par exemple, sur le site de l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement public, ils ont toute une rubrique qui est dédiée aux petits gestes. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Je préfère la marche, le vélo ou les transports en commun, avec un joli dessin d'une maman qui fait ses courses à vélo avec sa petite fille dans le siège arrière.
Or, ce que vous dites, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au vélo.
Exactement. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'accès aux transports en commun ou aux mobilités douces est bien plus facile en ville qu'à la campagne. Le sociologue Bruno Coquart, lui, il dit que c'est indépendant des individus. Les ruraux utilisent beaucoup la voiture, pas parce que c'est leur passion secrète de polluer en roulant, mais bien parce que la voiture est indispensable dans le mode de vie rural, pour se rendre au travail ou aller faire ses courses.
Ou aller chercher ses enfants à l'école.
Oui, voilà, tout à fait. Selon Benoît Coquart, toujours, la voiture est vitale en zone rurale, parce que tout est délocalisé, que ce soit le commerce, le travail ou l'école, justement. Du coup, de par l'explosion urbaine et le processus de polarisation qui se met en place, la population se regroupe dans les grandes villes et délaisse les campagnes qui se retrouvent marginalisées. Et c'est comme ça que les services se retrouvent délocalisés.
Ou comme les magasins, par exemple.
Oui, voilà, comme les magasins, mais aussi les médecins, par exemple. Tenez, le géographe Benjamin Mott-Bumvol parle, lui, de recul des services de proximité, dans le sens où la proximité physique recule au profit d'une proximité qui est basée sur l'accessibilité automobile. Les services peuvent être considérés comme facilement accessibles en termes de temps de transport, mais seulement si on a une voiture.
Donc pour vous, il est impossible de concilier mode de vie rural et petits gestes écolos ?
Alors je n'ai pas dit ça. Les ruraux peuvent tout à fait mettre en place des petits gestes écolos, mais de manière générale, on voit bien qu'ils n'auront pas la même facilité que les urbains à se conformer à une écologie quotidienne. D'ailleurs, un événement qui a très bien révélé ces inégalités, vous le connaissez, hein, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui s'est créé avec la mise en place du projet d'augmentation de la taxe carbone censée réduire les émissions de CO2.
Mais quel rapport entre les Gilets jaunes et notre sujet ?
Eh bien, avec les Gilets jaunes, la forte contestation s'est concentrée dans le milieu rural. Et ici, on voit bien le décalage entre les préoccupations des ruraux et les objectifs écologiques de baisse des émissions de CO2. C'est là qu'on voit à quel point le potentiel d'action par les petits gestes est différent entre urbain et rural, et qu'il est donc injuste de faire porter le chapeau aux individus alors qu'ils ne peuvent pas tous s'impliquer de la même manière dans ces fameux petits gestes.
Vous parlez d'aspect économique et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec Yvan qui est intervenu tout à l'heure pour nous parler d'inégalité de classe dans la question des petits gestes.
Et vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait en lien avec les classes populaires que l'on pointe du doigt parce que leur comportement ne serait pas écolo. Mais peut-on vraiment leur en vouloir de ne pas mettre l'écologie au centre de leurs préoccupations ? C'est pareil avec les ruraux. Je suis sûr que la plupart sont de très bonne volonté, hein, mais quand on doit faire 15 km pour aller faire ses courses, je peux comprendre qu'on préfère la voiture à la bicyclette.
Oui, on est bien d'accord. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Yvan, Mallory, Hugo et Achan pour leurs interventions. Chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions, je vous invite à écouter le podcast « Quoi de meuf » et son émission consacrée à l'écoféminisme, ou lire le livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale aux éditions Anthropocène. Voilà donc, c'était Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs et auditrices Vers de Rage, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique, Environnementale et Pratiques Sociales. Un grand merci à toutes et à tous, ainsi qu'à nos professeurs. Nous remercions également La Technique pour la réalisation et Jacques Lavergne pour nous avoir donné l'opportunité de réaliser cette émission. Vous pourrez également retrouver le podcast de cette émission, ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Vers de Terre. Belle soirée à toutes et à tous.
Bienvenue à tous et à toutes sur Esprit Occitanie. Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs Vers de Rage. L'émission des étudiants du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. Je suis Sarah, sociologue et animatrice de cette émission. Et nous sommes aujourd'hui en présence de Marine et Anne, sociologues.
Bonjour.
Et Léo et Rachel.
Bonjour.
Nous souhaitons aborder dans cette émission un thème qui fait aujourd'hui débat dans de nombreux pays à travers le monde, et notamment en France, relatif au fait d'accorder à la nature une personnalité juridique. La nature aurait ainsi des droits à part entière qu'elle pourrait opposer aux êtres humains lorsque ceux-ci lui portent atteinte. Chères auditrices et auditeurs, vous avez sûrement déjà entendu parler du terme d'écocide. Si l'on cherche une définition de ce terme, le dictionnaire Larousse mentionne une grave atteinte portée à l'environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes et pouvant aboutir à leur destruction. Cette notion a fait l'objet de récents débats en France. Marine, aurais-tu un mot à partager à ce sujet en tant que sociologue ?
Oui, en effet. Le ministère de la Justice, sous l'égide de M. Dupond-Moretti, vient tout juste de donner une valeur juridique aux atteintes portées à la nature en qualifiant pénalement ces dégradations comme des délits. Mais certaines associations environnementales préféreraient la qualification de crime, plus lourde de sens et de responsabilité. Alors, crime ou délit, là est la question. Mais finalement, réfléchir sur l'écocide, est-ce que ça ne serait pas admettre que la nature a des droits ? L'idée ici serait de reconnaître la destruction de la nature sous la notion d'écocide, comme on reconnaît la destruction massive de populations à travers le terme de génocide. En France, c'est depuis les années 2000 que l'on se questionne sur l'attribution d'une personnalité morale aux éléments naturels. Thomas Berry est l'un des premiers à avoir théorisé les droits de la nature. Il dit ainsi que chaque composante de la communauté de la Terre dispose de trois droits. Le droit à l'existence, le droit à l'habitat et le droit de remplir son rôle dans les processus sans cesse renouvelés de la communauté de la Terre. Mais à l'international, le débat est plus ancien. Déjà en 1972, Christopher Stone, juriste américain, écrit un article intitulé « Les arbres doivent-ils plaider ?» qui se questionnait déjà sur les droits des arbres. Et toi, Anne, qu'en penses-tu ?
À mes yeux, notre vision du monde influence notre rapport à la nature et le fait de vouloir lui attribuer ou non une personnalité morale. Sauf que les visions du monde sont multiples et dépendent très souvent des cultures et de leurs histoires. En France, par exemple, la tradition est de séparer la culture et la nature et d'imposer la supériorité de l'homme sur cette dernière. Dans cette conception, si l'homme a des droits et aussi des devoirs vis-à-vis d'elle, le code de l'environnement ne lui confère pas une personnalité juridique. Dans d'autres pays, notamment d'Amérique latine, l'être humain n'est qu'une partie de la nature et celle-ci se voit donc reconnaître des droits comme les hommes.
C'est très juste. Le 22 octobre 2020, un verdict a été rendu en faveur de la nature par la cour du canton de Cotacachi en Équateur. Le ministère de l'Environnement équatorien a en effet été condamné pour négligence de ses devoirs environnementaux. Petit point de précision pour nos auditrices et auditeurs. Sachez que la nouvelle constitution de la République d'Équateur, établie en 2008, fait de la nature un sujet de droit. Elle affirme que la nature a le droit d'exister, de persister, de maintenir et de régénérer ses cycles, structures, fonctions et processus vitaux. L'État doit également mettre en place des mesures de précaution et de restriction aux activités pouvant conduire à l'extinction d'espèces, la destruction d'écosystèmes ou l'altération permanente des cycles naturels.
Mais voilà, l'État a failli à sa mission en s'alliant avec de grands groupes industriels afin de créer une extraction minière de cuivre dans la vallée de l'Intag, ce qui a mené à la mise en danger de nombreuses espèces, et plus particulièrement deux espèces de grenouilles, l'Atelopus longirostris, qui était considérée comme éteinte, et l'Ectopoglossus confusus, en voie d'extinction.
Dans cette émission, nous allons donc étudier en détail l'histoire de ces grenouilles et l'importance de ce procès, mais nous nous intéresserons aussi au regard que portent les Français sur le droit de la nature. En effet, malgré les différences culturelles et traditionnelles de la France et de l'Équateur, la volonté d'accorder des droits à la nature est de plus en plus partagée, en témoigne le cas de la Loire, un fleuve qui fait l'objet d'une récente initiative pour lui accorder un statut juridique. La France prendrait-elle exemple sur l'Équateur ? Pour aborder ce sujet complexe, nous avons décidé de donner une voix à la nature. Nous avons donc imaginé un dialogue entre la grenouille Atelopus, qui sera interprétée par Léo, et la Loire, qui sera interprétée par Rachel. Si ces entités pouvaient parler, voilà ce qu'elles pourraient se dire. Nous reviendrons par la suite pour analyser leur discours.
Bonjour Atelopus, je suis la Loire, grand fleuve de France.
Bonjour, oh, je t'en prie, appelle-moi Atelo.
J'ai ouï dire qu'un jugement avait eu lieu en Équateur et que tu étais au cœur de cette victoire. C'est fabuleux. Peux-tu m'en dire plus et ainsi apporter de l'eau à mon moulin ?
Bien évidemment. Tout a commencé en 1981. Quand une première compagnie minière a voulu s'installer dans ma vallée. Ils ont découvert que ma terre était pleine de métaux qu'ils chérissent tant, comme le cuivre ou encore le lithium. Heureusement, l'État a refusé. Tu sais, la culture équatorienne est basée sur les croyances incas, qui placent la terre au centre des intérêts de tous. Pour nous, la nature détient sa propre personnalité. Elle est animée, et nous l'appelons Pachamama.
Pachamama, tu dis ?
Oui, ou la terre-mère, si tu préfères. C'est l'entité qui nous protège et nous fournit les ressources dont nous avons besoin pour vivre et nous aussi en retour, nous nous devons de la protéger et de la respecter.
Ah, je comprends mieux. Je dirais même que c'est clair comme de l'eau de roche.
C'est dans cet état d'esprit que le gouvernement a interdit l'exploitation dans notre vallée. Mais malheureusement, les entreprises n'ont jamais cessé de convoiter notre sol. En 1995, c'est une compagnie japonaise, la Bishimetals, qui a voulu s'emparer de ces précieuses ressources. Elles ont, eux aussi, été stoppées dans l'œuf. En 2008, ce fut une compagnie canadienne, mais l'État a là encore refusé de céder l'Intag. C'est en 2012 que l'histoire prend une toute autre tournure.
Ah bon ? Mais que s'est-il passé ? Y avait-il de l'eau dans le gaz ?
En effet, les entreprises qui convoitaient ces métaux n'étaient pas seulement étrangères. Et pour cause, le président équatorien de l'époque, M. Correa, a retourné sa veste. Lui qui avait toujours refusé toute exploitation, avait fini par considérer que pour développer l'économie du pays, il fallait extraire ses ressources et les mettre sur le marché mondial. C'est donc une compagnie minière équatorienne, Enami-EP, en coopération avec une compagnie minière chilienne, Codelco, qui ont mis la main sur la vallée et creusé des forages. Et tout ça avec le soutien de l'État.
Attends, mon cher Atelo, tu veux dire que le président Correa, qui avait toujours refusé ses exploitations, et qui, d'ailleurs, a fait de la préservation de l'environnement son cheval de bataille, a finalement soutenu le projet. Mais il nage entre deux eaux en agissant ainsi. Enfin, je veux dire, c'est drôlement manœuvré de sa part. Comment est-ce possible ?
C'est très simple. C'est l'État équatorien qui est propriétaire de l'une des entreprises qui exploitait la vallée.
Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ensuite, que s'est-il passé ?
Eh bien... heureusement, des associations et une partie de la population se sont dressées contre ce projet d'extraction, qui allait directement à l'encontre de la nouvelle constitution de 2008.
Mmh. Et laisse-moi deviner, serait-ce à ce moment-là que tu interviens ?
C'est effectivement à ce moment-là que je fais mon apparition, alors que les procédures judiciaires avaient déjà commencé. Étant considérée comme une espèce éteinte, ma redécouverte par les scientifiques, ainsi que celle d'une espèce cousine à la mienne, directement dans la vallée de l'Intag, a créé un véritable chamboulement. Nos sauveurs se sont efforcés d'assurer notre survie et ont mis en œuvre un plan de conservation pour protéger nos espèces et plus largement la biodiversité du lieu. Sauf que cela implique de mettre fin à notre plus grande menace, l'extraction minière qui pollue notre eau et nuit à notre santé. À partir de là, les associations de protection de la nature ont eu la bonne idée de se servir de notre réapparition pour monter un dossier en béton afin d'attaquer le gouvernement en justice en dénonçant sa négligence envers les milieux naturels.
Alors, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, au vu du résultat. Votre culture et vos traditions se sont mêlées au pouvoir juridique et cela a permis de créer un véritable exemple en termes de reconnaissance et de respect des droits de la nature.
Oui, nous étions en quelque sorte l'argument qui manquait pour faire pencher la balance et mener une action capable de mettre un terme à cette exploitation qui endommage tant la Pachamama.
Mais alors, à présent, où en est le jugement et quel est le verdict ? Tu n'es tout de même pas resté le bec dans l'eau, mon cher Atello.
L'État dispose de 3 mois pour prendre les dispositions nécessaires afin de montrer qu'il peut nous protéger et donc honorer notre Constitution. Cependant, les associations sont formelles. Il n'y a aucune chance pour que cette extraction minière de cuivre soit compatible avec notre protection et celle de la Pachamama plus globalement.
Alors, Anne, qu'as-tu pensé de cet échange entre la Loire et la grenouille Atello ?
Je trouve ça intéressant. La notion de Pachamama est ici très importante pour comprendre le sujet. La Pachamama est en quelque sorte une déesse qui représente la terre, la nature. Elle est très importante pour une majorité de la population équatorienne qui considère faire partie de la Pachamama au même titre que toutes les autres entités qui composent notre monde. Les végétaux, les animaux, les minerais et parfois certains objets auxquels est attribuée une valeur singulière. Elle est au cœur du système de croyance du peuple des Andes. La Pachamama protège la population et leur permet de vivre grâce à tout ce qu'elle fournit. L'eau et la fertilité pour les cultures notamment. Ces populations prennent soin de la Pachamama et lui rendent hommage. De plus, le crapaud est considéré comme son messager. Je trouve ça ironique que ce soit Atello, qui est une grenouille, qui nous a fait découvrir la Pachamama. Marine, cela ne te rappelle pas les travaux de Descola ?
Oui, tout à fait. Le rapport entre l'humain et la nature exposé ici me rappelle bien l'anthropologue français Philippe Descola, auteur d'un essai intitulé « Par-delà nature et culture ». Il explique dans son livre ce rapport animiste que l'homme peut avoir avec la nature. Dans une relation animiste, nous dit Descola, il existe un ordre naturel hérité d'une époque où humains, animaux et plantes n'étaient pas différenciés. Les animaux et les plantes sont, au-delà des différences corporelles et biologiques, considérés comme des humains déguisés. Ils partagent avec ces derniers la subjectivité, la conscience, l'intentionnalité. Ainsi, si nos physicalités sont différentes, nos intériorités sont similaires. En résumé, dans cette conception du monde, l'humain n'est pas forcément supérieur au non-humain, ou autrement dit, à la nature. La relation avec la nature adoptée par le peuple équatorien se comprend au travers de cette approche.
Il ne faut pas oublier que dans cet essai, Descola expose également 3 autres ontologies qui témoignent d'une relation particulière entre les hommes et la nature. Dans la vision dite du totémisme, on ne fait pas de distinction entre les humains et les non-humains. Ils sont égaux et appartiennent à une même famille, sans barrière physique ni mentale pour les opposer. Dans le cas des peuples ayant une conception analogique, on pense au contraire le monde comme constitué de singularités, où toutes les espèces seraient totalement différentes et vivraient parallèlement. Enfin, dans une conception naturaliste, on établit une séparation entre humains et non-humains, ainsi qu'un rapport de domination de l'un sur l'autre. Contrairement à l'animisme, dans le naturalisme, on parle ainsi de nature pour désigner ces espèces non-humaines et marquer le fait qu'elles ne nous ressemblent pas. Dans le naturalisme, la nature renvoie à tout ce qui ne relève pas de la culture.
J'ajoute que Descola considère qu'il n'y aurait pas de distinction en soi entre nature et culture. Tout cela relève de construits sociaux. Ainsi, on ne saurait dire où commence la nature et où se termine la culture, à l'image de cette citation de l'auteur « L'homme est naturellement culturel et culturellement naturel ».
En fait, selon lui, l'homme est un tout composé à la fois du naturel et du culturel.
Oui, c'est ça. C'est dans cette frontière établie entre la nature et soi que la conception naturaliste pense l'homme comme étant supérieur à la nature.
En effet, l'hégémonie du naturalisme dans le monde occidental peut être expliquée par le fait que les sciences et techniques se sont développées en se basant sur le postulat de Descartes dans « Le discours de la méthode », je cite, « L'homme se rend maître et possesseur de la nature ».
Nous reparlerons de cette vision naturaliste en France après une pause musicale. On vous laisse reprendre votre souffle quelques instants en écoutant « Respire » de Gaël Faye.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi, miroir salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil, reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine hamster dans sa roue, Michel Grand Bourreau.
faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre, tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts, ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rampes, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Chers auditeurs, auditrices, nous revoici sur le plateau de Vers de Terre, toujours en compagnie de Laloire, Athélo, Marine et de Anne. Nous nous sommes quittés sur le cas équatorien qui traduisait une certaine vision de la nature et comment celle-ci se traduit dans le droit. Nous verrons dès à présent comment les Français considèrent la nature. Souvenez-vous, lors du premier confinement entre mars et juin 2020, lié à la crise du coronavirus, on entendait souvent dire que la nature avait repris ses droits. Mais est-ce vraiment le cas et a-t-elle déjà eu des droits en France, d'un point de vue de la loi, justement?
Depuis peu, des associations et partenaires institutionnels tentent d'imaginer comment des océans, forêts, fleuves ou toute autre entité naturelle, matérielle et immatérielle, pourraient être représentées. Petit aparté qui peut s'avérer utile à nos amis auditeurs et auditrices, vous vous demandiez probablement, en entendant discuter nos deux protagonistes, pourquoi avoir choisi de faire parler la Loire. Eh bien, en fait, elle illustre particulièrement bien notre idée de droit de la nature. En effet, ce fleuve fait actuellement l'objet de discussions pour savoir si, oui ou non, elle acquérera le statut d'entité juridique. C'est un peu la figure qui nous permet d'introduire cette nouvelle avancée dans l'histoire en partant d'un cas français concret.
Depuis un an, une commission interdisciplinaire composée de professionnels, philosophes, anthropologues, biologistes, juristes et d'usagers de la Loire organise des auditions publiques pour imaginer à quoi ressemblerait une institution des droits de la Loire. Cela permettrait au fleuve de se défendre face aux activités humaines destructrices telles que la pollution par les industriels ou la surexploitation de ses ressources.
Voyons à présent ce que nos deux acolytes Athélo et la Loire ont à dire à ce sujet.
Je t'ai beaucoup expliqué ce qui se passait dans mon pays. Maintenant, à ton tour de m'en dire plus sur ta situation. Qu'as-tu vécu ces dernières années et comment les humains te considèrent ces derniers temps?
Eh bien, écoute, tu me disais que tu étais à deux doigts de disparaître du fait des activités minières dans la vallée de l'Intag. Eh bien, dis-toi qu'ici, de nombreuses espèces sont également gravement menacées par les activités marchandes qui ont lieu sur mon cours d'eau et sur mes berges. En France et même en Europe, les humains se permettent de plus en plus de détruire les autres formes de vie. Et autant te dire qu'à ce train-là, je ne ferai pas de vieux os.
Tu sais, en Équateur, pendant longtemps, les peuples autochtones étaient respectueux à mon égard. Ce n'est qu'avec l'arrivée des colons et des peuples venant d'Europe que les choses se sont inversées. Te concernant, ici en France, c'est l'inverse. Les Occidentaux ont depuis longtemps déjà considéré qu'ils pouvaient domestiquer et exploiter leur environnement. Mais te rappelles-tu à quelle époque les humains ont commencé à utiliser tes os ?
Oui, Atello, je me souviens très bien. Je n'ai pas encore une mémoire de poisson rouge. C'était il y a 300 000 ans. À cette époque, je n'avais pas à me soucier des humains, car l'usage de mes ressources ne perturbait pas le cycle naturel de l'eau et des écosystèmes. Ce n'est que depuis qu'ils se sont installés de manière permanente autour de mes berges, il y a environ 7500 ans, que les choses ont commencé à tourner au vinaigre. La naissance concomitante des premières villes et de l'agriculture sont deux événements historiques qui attestent de mon mauvais état actuel. Et comme si cela ne suffisait pas, les humains se sont mis à accentuer les tortures commises à mon égard depuis ce qu'ils appellent la révolution industrielle. Dorénavant, leurs bateaux avancent avec un moteur et des pesticides intoxiquent mes eaux. Toutes ces activités industrielles vont finir par m'achever, Atello.
Effectivement, c'est horrible ce que tu vis. Je suis vraiment peiné de savoir que tu endures tout ça. Mais tu as essayé d'envoyer des signaux aux humains pour qu'ils arrêtent ?
Oui, Atello, mais ici en France, ça ne se passe pas comme en Équateur. Chez moi, la grande majorité des humains ne comprennent plus les signaux que je leur envoie. Et pourtant, ce n'est pas faute de preuves. Mes eaux sont moins pures et la vie se meurt en moi. Mais l'eau a coulé sous les ponts et à présent, certains individus se sont remis à m'écouter. Camille de Toledo, par exemple, est l'un des premiers à avoir porté ma défense aux côtés de Bruno Latour et de l'organisation Polo. Ensemble, ils militent pour qu'on m'attribue une personnalité juridique.
Une personnalité juridique, c'est quoi ?
Chaque citoyen français en est doté et c'est un moyen qu'ils ont pour que chacun soit reconnu en tant qu'individu à part entière, ayant des droits et des devoirs dans la société. Et à travers cette logique, celui qui détient une personnalité juridique peut faire valoir ses droits et avoir accès à ce qu'ils appellent une protection juridique. Sauf que tu vois, dans leur système, seuls les humains se dotent d'une personnalité juridique. Nous autres, fleuves, animaux ou minéraux et végétaux, n'en disposons pas.
Ah voilà qui est intéressant ! Donc on peut dire que ceux qui militent pour te donner une personnalité juridique souhaitent faire valoir tes droits et en quelque sorte te donner une voix qui pèserait dans leur système juridique ?
Oui, c'est bien ça, Atello. Et autant te dire que j'en suis ravie. Enfin, je mets de l'eau dans mon vin. J'espère simplement que ça ne finira pas en queue de poisson.
Et nous revoici sur le plateau de Vers de Terre pour analyser les propos d'Atello et de la Loire. C'était très intéressant ce concept de personnalité juridique appliqué à une entité non humaine.
Oui, tout à fait. Ça montre que les Français tentent d'utiliser le droit en tant qu'outil coercitif pour protéger la nature.
Il me semble que c'est propre à la culture française que de recourir au droit, souvent en dernière option, pour obliger la société dans son ensemble à adapter son comportement vis-à-vis de ce que l'on appelle notre environnement. On a d'ailleurs créé un code de l'environnement en 2000 à cet effet.
C'est peut-être révélateur d'une certaine mentalité naturaliste et cartésienne où l'homme domine la nature, parce qu'au fond, ces outils juridiques visent à imposer des règles et non pas à changer les mentalités et nos rapports à ce qui nous entoure. Ainsi, l'homme continue de percevoir la nature dans une fonction utilitariste. Le droit vient seulement réguler cette utilisation, mais ne permet pas d'imaginer d'autres formes de relations.
Je suis de ton avis, mais ne laissons pas nos auditeurs et auditrices se perdre dans ce vaste sujet.
Oui, nous allons à présent discuter du droit de la nature au regard de deux penseurs, Bruno Latour et Serge Moscovici. Anne, tu as étudié les travaux de Latour, si je ne me trompe pas. J'en ai entendu parler, c'est un socio-anthropologue, mais aussi philosophe des sciences, reconnu en France et même à l'international. Mais je me demandais, quelle est sa conception de la nature ? Peux-tu expliquer sans penser en quelques mots ?
Bien sûr, Sarah. La vision théorisée par Latour est riche d'enseignements. Il pourra sans doute nous éclairer sur le dialogue que nous venons d'entendre. En fait, l'idée de Bruno Latour, qui est retranscrite dans son ouvrage intitulé « Politique de la nature, comment faire entrer les sciences en démocratie », s'inscrit dans une volonté de renouveler l'écologie politique. Il choisit la figure de Gaïa pour remplacer l'idée de nature qui n'est pas assez évocatrice ni engageante, selon lui.
Je vois. Mais peut-on du coup la comparer avec la Pachamama en Équateur ?
Justement, non. Elle n'a rien à voir avec une quelconque religion ou spiritualité. C'est simplement le nom que Latour a repris pour la personnifier et lui donner ainsi une position centrale. Elle se place en tant qu'entité palpable à défendre. Selon les mots de Latour, elle est « une injonction pour rematérialiser l'appartenance au monde ». Il s'agit d'arrêter de nier l'existence des limites des ressources et de lutter pour préserver cette unité.
D'accord, mais en quoi changer de mot va permettre de changer les choses ?
Eh bien, très bonne question. En fait, Latour voit en la nature, ou plutôt comme il préfère l'appeler Gaïa, un sujet politique majeur. Le terme de nature a toujours été considéré comme intouchable. Les politiques semblent centrer leurs forces dessus, mais pourtant très peu d'actions concrètes sont entreprises. Gaïa est tout le contraire. Elle vient justement repolitiser le réel, étant donné qu'elle est dans l'action et dans le changement. Elle représente un moyen d'action. C'est en quelque sorte la figure unificatrice qui, en créant une unité avec nous, humains, va nous pousser à agir en l'intégrant dans les décisions politiques. Alors que le terme « nature » place l'homme en tant qu'acteur unique sur la scène de l'histoire, totalement détaché de ceux qui l'entourent, Gaïa apparaît comme un nouveau personnage capable d'interagir avec lui. Pour reprendre les mots de Latour, c'est comme si le décor était monté sur scène pour partager l'intrigue avec les acteurs.
Alors du coup, on pourrait comparer Gaïa à une forme d'activisme.
Eh bien, d'une certaine façon, oui. Elle est l'entité qui vient faire prendre conscience à l'homme qu'il ne peut plus jouer le mode de l'indifférence. C'est un moyen de condamner son inaction sur la question écologique. On part d'un constat sur les limites des ressources. Comment est-ce qu'on absorbe un monde où il faudrait 5 terres alors qu'il n'y en a qu'une ? Et s'ensuit une étape nécessaire à l'action, la prise de conscience. Gaïa donne justement cet élan d'action qu'il manquait aux précédentes formes d'écologie politique. Il ne suffit pas de constater les effets du réchauffement climatique et de son alarmer. Il faut ensuite allier tous les champs politiques pour trouver des solutions concrètes à mettre en place et ainsi permettre de changer la donne de l'ère de l'Anthropocène. Selon Latour, notre passivité prend sa source dans la manière dont nous concevons les rapports entre l'homme et la nature. Obsédés par les idéaux fondés sur l'exploitation des ressources, nous sommes incapables de comprendre l'importance de la terre et de la défendre.
Ah oui, je crois comprendre. Donc c'est une façon de dire qu'il faut agir ensemble et se bouger parce qu'on fait partie d'un seul et même écosystème. C'est bien ça ?
Exactement. Contre l'opposition traditionnelle nature-culture, cette nouvelle idée prône l'unification des forces pour remettre au centre de nos préoccupations ce qui nous lie. C'est en effet ce que Latour met en avant. Nous devons penser le rapport de l'homme à la nature non pas comme deux choses dissociées, mais comme étant connectées et ayant des intérêts communs. L'être humain est le seul à être doté de la capacité de parole. Par conséquent, il en tient de notre responsabilité de porter sa voix et de protéger ses intérêts.
Incroyable ! Je comprends que Gaïa est centrale chez Latour, mais concrètement, en quoi consiste sa proposition ?
J'allais y venir justement. La théorie de Latour, c'est vraiment cette idée que nous sommes tous et toutes liés et que pour que notre civilisation ait une chance de survivre, seule une coalition avec non seulement notre environnement, mais aussi les choses, les êtres vivants, les animaux, tous ceux à quoi il fait référence en nommant les non-humains, pourrait faire la différence. Son but est donc de concevoir un collectif incluant humains et non-humains, un collectif hybride. Pour ce faire, il faudrait inclure dans la constitution même du pays afin de leur donner une personnalité juridique qui leur confère une âme politique. Latour propose la création d'un parlement des choses, dans lequel les choses seraient représentées par des scientifiques ou des personnes reconnues pour leurs compétences dans un champ particulier, au même titre que les députés traditionnels représentent aujourd'hui les citoyens.
Je vois. Donc si j'ai bien compris, l'idée de Latour serait de reconnaître une égalité parfaite entre humains et non-humains.
Oui, effectivement. Il parle notamment de classes géosociales pour illustrer cette idée. Différentes des classes sociales que nous connaissons, les classes géosociales comprennent tout être vivant. Latour veut montrer à travers cette idée que toute chose existante dans ce monde doit être considérée de la même manière, sur un pied d'égalité. On parle alors d'anthropologie symétrique. Si on l'applique au code de la Loire, elle devrait avoir des droits propres, ainsi que des intérêts à défendre. C'est l'idée qu'on a voulu illustrer en donnant la parole à la Loire. Personnifier un fleuve n'est pas un choix anodin. Cela revient à incarner symboliquement l'idée d'en faire une entité morale, avec une personnalité à part entière et capable de s'exprimer et de ressentir. C'est ce qui a été proposé lors de la tentative d'introduction d'un Parlement de Loire, auquel Bruno Latour a d'ailleurs participé. L'objectif est de la défendre et de donner une voix à part entière à l'écosystème fluvial.
Si on devait donc résumer la pensée de Latour, humain et non-humain représentent un collectif hybride qui compose ce que l'on appelle les classes géosociales, guidées par la figure unificatrice de Gaïa. Et concernant Moscovici, Marine, toi qui es une spécialiste de cet auteur, qu'en aurait-il pensé à ton avis ?
Déjà, si tu me le permets, j'aimerais rebondir sur cette notion de classe géosociale dont Anne vient de parler, car cela fait écho à certains travaux de Moscovici.
Oui, je t'en prie, vas-y.
Comme Latour, Moscovici fait le constat de fortes inégalités de traitement entre humains et non-humains. Cependant, Moscovici souligne que cette inégalité de traitement se fait également à l'encontre de ce qu'il appelle les condamnés au silence, regroupant, je cite, « des bêtes, la nature, mais aussi des femmes, des jeunes, des exilés, des courants parallèles et des cultures déviantes ». Et Moscovici avance dans ses travaux qu'il faut faire alliance avec les condamnés au silence.
Qu'entend Moscovici par faire alliance ?
C'est très simple. Moscovici entend entrevoir une égalité de traitement, comme pour Bruno Latour, à la différence près qu'au sein même de la communauté humaine, il y a aussi des inégalités de traitement.
Que veux-tu dire par là ?
Pour aller plus loin dans la réflexion, les humains classés par Moscovici dans la catégorie des condamnés au silence sont perçus comme des êtres primitifs, pas tout à fait évolués, et proches de la condition d'un animal sauvage. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que les insultes faites aux femmes, par exemple, tentent à les réduire à un animal, chienne ou encore cochonne. C'est une double insulte. D'une part, ça sous-entend que les animaux autres qu'humains sont inférieurs à l'homme, d'autre part, ça insulte la femme qui est également infériorisée.
Si je comprends bien, les condamnés au silence sont donc des êtres jugés inférieurs à l'homme. Peut-on en conclure que ces êtres sont des êtres primitifs, barbares, voire sauvages ?
Oui, exactement. Du moins, c'est ainsi que Moscovici l'entend. Sa thèse principale est le réensauvagement de la vie. Il le conçoit de deux manières. Réensauvager la vie vient d'une part remettre en cause le fonctionnement intrinsèque à notre civilisation occidentale. Comme l'a constaté Atello, les peuples occidentaux ont depuis longtemps exploité et domestiqué la nature. Cette domestication de la nature est une pratique légitimée par les peuples occidentaux depuis fort longtemps.
Permets-moi de te couper, mais à quel moment les peuples occidentaux se sont mis à légitimer de telles pratiques ? La Loire, justement, partage son point de vue. Rappelons qu'elle a mentionné le fait qu'en Europe, les humains détruisent les autres formes de vie depuis longtemps.
Cette intervention de la Loire fait grandement écho à ce que dit Moscovici. Selon lui, les peuples occidentaux se sont mis à légitimer de telles pratiques à partir du moment où ils se sont raconté un mythe terrible qui traversa les siècles et qui perdure encore aujourd'hui.
Lequel ?
Ce mythe, schématiquement, raconte que l'homme est une espèce imparfaite, incapable, à l'instar des autres animaux, de pouvoir vivre dans la nature sans se faire bouffer, pour le dire trivialement.
Mais en quoi ce mythe de l'imperfection humaine est-il si terrible, comme tu le dis ?
Justement, cette imperfection était vue comme le signe que les hommes n'étaient pas adaptés à l'état de nature et que, par conséquent, son espèce était plus adaptée au royaume des dieux. L'homme est vu comme un semi-dieu dont l'imperfection montrait bien qu'il avait une marge de progression lui permettant de sortir de son état sauvage. L'idée du progrès vient également de cette histoire, puisque vu comme imparfaite, l'homme était la seule espèce à pouvoir se perfectionner et donc progresser. La science est même venue conforter ce mythe à travers les travaux de Descartes notamment. Celui-ci avançait au XVIIe siècle que l'homme était bel et bien séparé du reste du monde naturel, légitimant le fait qu'il fallait s'en rendre comme maître et possesseur. Cette vision cartésienne a, dès le départ, été vue comme un fait logique, indiscutable dans notre culture occidentale.
Oui, mais il y a bien des personnes qui ont remis en question cette histoire, non ?
Oui, bien évidemment, mais pour reprendre les termes de Moscovici, les cultures déviantes ou alternatives étaient perçues, je te le rappelle, comme des êtres inférieurs. Ce sont les fameux condamnés au silence.
Revenons à la thèse principale de Serge Moscovici que tu étais en train de raconter, le réensauvagement de la vie. Tu disais que c'était un moyen de contrecarrer les pratiques d'exploitation et de domestication de la nature, qui sont légitimées par le mythe de l'homme imparfait que les peuples européens se sont racontés.
Oui, premièrement, cette domestication de la nature n'est plus acceptable pour Moscovici, et c'est pourquoi le terme de réensauvagement vient à son encontre. Deuxièmement, le réensauvagement de la vie vient souligner la réacceptation de notre état naturel, sauvage, à ne pas voir ici péjorativement, et ainsi reconnaître des alliances avec les condamnés au silence pour retrouver, comme le disait Latour, une forme d'égalité de traitement entre chaque entité humaine et non humaine.
Merci beaucoup Marine pour ces dernières analyses. Nous aurions pu développer pendant des heures et des heures, mais nous sommes malheureusement obligés de rendre l'antenne. Chères auditrices et auditeurs de Vers de Terre, cet entretien vous a, on l'espère, fait réfléchir sur la place et la considération de la nature. Est-il toujours pertinent de la considérer comme quelque chose qui serait à l'extérieur de nous ou devons-nous nous y inclure pour cesser les destructions faites à son égard ? Le but ici n'était pas de fournir des réponses, mais plutôt d'ouvrir des brèches et des sujets de réflexion que chacune et chacun peuvent se réapproprier. Et au vu de l'actualité auquel nous faisions référence en début d'émission sur la reconnaissance ou non du terme d'écocide comme un crime aux yeux de la Constitution française, ces questionnements sont plus que jamais primordiaux. C'est désormais la fin de l'émission de Vers de Terre, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. Un grand merci aux participantes et aux participants, ainsi qu'à Jacques Lavergne, pour nous avoir offert l'opportunité de faire cette émission. Et enfin, un grand merci à l'équipe technique et à nos professeurs. On vous rappelle également que l'émission sera disponible sur le site Esprit Occitanie. Au revoir et bonne soirée à tout le monde.